Chapitre 13. Ainsi finit le second acte. Arrivé au troisième, Henry ne parcourait plus les pages qu'avec une extrême fatigue de corps et d'esprit. Il sentait qu'il avait besoin de repos. Dans la dernière partie du manuscrit, un passage très important, l'écriture et le style de la comtesse avaient subi une grande altération. La folie apparaissait à mesure que la pièce tirait à sa fin. L'écriture devenait de plus en plus mauvaise. Quelques-unes des phrases étaient restées inachevées. Dans le dialogue, les questions et les réponses ne concordaient pas toujours exactement entre elles. Par intervalles, l'intelligence affaiblie de l'écrivain paraissait reprendre un instant sa vigueur. Cette vigueur disparaissait bientôt, et le fil du récit s'embrouillait de plus en plus. Après avoir lu encore un ou deux des passages les plus clairs, Henry recula devant l'horreur toujours croissante du récit. Il ferma le manuscrit, malade de corps et d'esprit. Puis il se jeta sur son lit pour reposer. Presque au même instant, la porte s'ouvrit. Lord Montbury entra dans la chambre. « Nous rentrions de l'opéra, » dit-il, « et nous venons d'apprendre la mort de cette misérable femme. On dit que vous lui avez parlé à ses derniers moments. Je voudrais savoir comment cela s'est passé. » « Vous allez le savoir, » répondit Henry. « Vous êtes maintenant le chef de la famille. Stephen, il est de mon devoir, dans le trouble qui m'oppresse, de vous laisser à vous. » Le soin de décider ce qui doit être fait. Après ces paroles, il raconta à son frère comment la pièce de la comtesse était arrivée entre ses mains. « Lisez les premières pages, » dit-il. « Je suis curieux de savoir si elles produiront sur vous la même impression que sur moi. » À peu près à moitié du premier acte, Lord Montbury s'arrêta et regarda son frère. « Que peut-elle bien vouloir dire en se vantant d'avoir inventé sa pièce ?» Était-elle donc assez folle pour ne plus se souvenir que tout cela est réellement arrivé? C'en fut assez pour Henry. Son frère éprouvait la même impression que lui. « Vous ferez ce que vous voudrez, » dit-il, « mais si vous voulez suivre un bon conseil, épargnez-vous maintenant la lecture des pages suivantes, où vous verrez de quelle manière terrible notre frère a été puni de ce honteux mariage. Avez-vous tout lu, Henry? Pas tout. J'ai reculé devant la lecture de la dernière partie. « Ni vous ni moi n'avons beaucoup vu notre frère après avoir quitté l'école. Je trouvais qu'il avait agi comme un infâme avec Agnès, et je ne me faisais aucun scrupule de le dire. Mais quand je lis l'inconsciente confession du meurtre horrible dont il a été victime, je me souviens avec un sentiment voisin du remords que nous sommes fils de la même mère. En effet, j'ai ressenti ce soir pour lui ce que je suis honteux d'y songer, ce que je n'avais jamais ressenti auparavant. » Lord Montbury prit la main de son frère. « Vous êtes un bon garçon, Henry. Mais êtes-vous certain de ne pas vous alarmer à tort? Parce que cette folle a dit dans quelques lignes ce que nous savons être la vérité. Est-ce qu'ils doivent s'en suivre forcément, qu'il faille croire le reste jusqu'au bout? Il n'y a pas de doute possible, » répondit Henry. « Pas de doute possible, » répéta son frère. « Je vais continuer ma lecture, Henry, et voir ce qui peut justifier votre conclusion. » Il continua jusqu'à la fin du second acte, puis il leva la tête. « Croyez-vous réellement que les restes mutilés que vous avez découverts ce matin soient les restes de notre frère ? » demanda-t-il. « Et le croyez-vous sur un témoignage pareil ?» Henry répondit par un signe de tête affirmatif. Lord Montbury fut sur le point de protester d'une façon énergique, mais il se contint. « Vous convenez que vous n'avez pas lu les dernières scènes de la pièce, » dit-il. « Ne soyez pas enfant, Henry. » Si vous persistez à croire cette horrible chose, le moins que vous puissiez faire est de prendre entièrement connaissance du manuscrit. Voulez-vous lire le troisième acte? Non? Eh bien, je vais le lire, moi. » Il chercha le troisième acte et prit quelques passages assez clairement écrits pour être déchiffrés. Voici une scène dans les caveaux du palais. La victime du complot est couchée sur un misérable lit. Le baron et la comtesse songent à la position dans laquelle ils se sont mis. La comtesse, si je comprends bien, s'est procuré l'argent nécessaire en empruntant sur ses bijoux à Francfort. Et le courrier peut encore en revenir, au dire du médecin. Que feront les coupables si l'homme revient à la santé? Dans son habileté, le baron propose de remettre le lord en liberté. Si par hasard il s'adressait à la justice, il serait facile de déclarer qu'il était sujet à des accès de folie et d'en appeler au témoignage de sa propre femme. D'un autre côté, si le courrier meurt, comment se débarrasser du lord séquestré? Faut-il le laisser mourir de faim? Non, le baron est un homme du monde, il n'aime pas les cruautés inutiles. Restent donc les moyens violents, si on recourait à un bravo. Le baron objecte qu'il n'a nulle confiance dans un complice. En outre, il ne veut dépenser, autant que possible, de l'argent que pour lui-même. Doivent-ils jeter leur prisonnier dans le canal? Le baron se refuse à confier son secret à l'eau. L'eau peut rejeter le cadavre. Doivent-ils mettre le feu à son lit? C'est une excellente idée. Mais on peut voir la fumée? Non. Les circonstances du reste sont maintenant changées du tout au tout. Le meilleur moyen d'en sortir, c'est encore de l'empoisonner. Le premier poison venu fera l'affaire. Croyez-vous, Henry, qu'il soit possible qu'une pareille discussion ait lieu? Henry ne répondit pas. La suite des questions que l'on venait de lire se présentait exactement dans le même ordre que les rêves qui avaient épouvanté Madame Narbury pendant les deux nuits qu'elle avait passées à l'hôtel. Il était inutile de faire part de cette coïncidence à son frère. « Continuez, » lui dit-il seulement. Lord Mountbury feuilleta le manuscrit jusqu'au premier passage un peu lisible. « Ici, » continua-t-il, « si je comprends bien les indications de mise en scène, le théâtre est coupé en deux. Le médecin est en haut, écrivant naïvement le certificat de décès du Lord au chevet du courrier mort. En bas, dans les caveaux, le baron est debout près du Lord empoisonné, préparant les acides qui doivent aider à réduire ses restes en cendres. « Ne perdons pas notre temps à déchiffrer de pareilles noirceurs de mélodrame. Passons, passons. » Il tourna encore quelques pages, essayant en vain de découvrir la signification des scènes confuses qui suivaient. À l'avant-dernier feuillet, il trouva encore quelques phrases intelligibles. « Le troisième acte paraît être divisé, dit-il, en deux scènes ou tableaux. Je crois que je peux lire l'écriture au commencement du second tableau. Le baron et la comtesse sont en scène. » Les mains du baron sont mystérieusement recouvertes de gants. Il a réduit le corps en cendres par un nouveau système de crémation, à l'exception de la tête, toutefois. Henry interrompit son frère. « N'allez pas plus loin » s'écria-t-il. « Rendons justice à la comtesse !» continua Lord Mountbury. « C'est une folle. Il n'y a plus qu'une demi-douzaine de lignes lisibles. » Le baron s'est cruellement brûlé les mains en brisant par accident sa cruche à acide. Il est incapable de faire disparaître la tête. Et la comtesse est assez femme, malgré toute sa méchanceté, pour reculer à l'idée de le remplacer dans ce travail. À la première nouvelle de l'arrivée de la commission d'enquête envoyée par les compagnies d'assurance, le baron n'a aucune crainte. Quoi que fassent les commissaires, c'est de la mort naturelle du courrier substitué au Lord qu'ils s'occuperont aveuglément. Mais la tête n'étant pas détruite, il faut à tout prix la cacher. Ses recherches dans la vieille bibliothèque lui ont appris l'existence dans le palais d'une cachette des plus sûres. La comtesse peut refuser de manier les acides et de surveiller la crémation, mais elle peut sûrement jeter un peu de poudre afin d'empêcher la décomposition. « Assez !» cria de nouveau Henry. « Assez !»« Je ne puis plus rien lire, mon cher ami. La dernière page a l'air d'être de la folie pure. Et elle vous a dit que l'imagination lui faisait défaut ?»« Soyez sincère, Stephen, et dites de mémoire. » Lord Mountbury se leva et jeta sur son frère un regard de pitié. « Vous êtes malade, Henry. Et ce n'est pas étonnant après la découverte que vous avez faite sous la pierre de la cheminée. Nous ne discuterons pas là-dessus. Nous attendrons un jour ou deux que vous soyez redevenu tout à fait vous-même. Mais au moins, entendons-nous dès à présent sur un point. C'est bien à moi que vous laissez, en qualité de chef de la famille, le droit de décider ce qu'il faut faire de ce griffonnage. Je vous le laisse. » Lord Mountbury prit tranquillement le manuscrit et le jeta au feu. « Que cette ordure serve au moins à quelque chose, » dit-il en soulevant les pages avec le poker. « La chambre commence à devenir froide. La pièce de la comtesse va faire flamber de nouveau ses bûches à demi calcinées. » Il attendit un peu devant le foyer et revint auprès de son frère. « Maintenant, Henry, j'ai encore un mot à dire. Puis j'ai fini. Je suis prêt à admettre que vous vous êtes trouvé, par un hasard malheureux, en face de la preuve d'un crime commis dans le palais autrefois. Personne ne sait quand. Mais à part cela, je conteste tout le reste. Plutôt que de partager votre opinion, je ne veux rien croire de tout ce qui est arrivé. Les influences surnaturelles que quelques-uns de nous ont subies quand nous sommes arrivés dans cet hôtel, votre perte d'appétit, les rêves affreux de ma sœur, l'odeur qui suffoqua Francis et la tête qui apparut à Agnès, je déclare que tout cela est pure hallucination. Je ne crois à rien, rien, rien. » Il ouvrit la porte pour sortir, et regarda encore une fois dans la chambre. « Si, continua-t-il, il y a une chose que je crois. Ma femme a commis une indiscrétion. Je crois qu'Agnès vous épousera. Bonsoir, Henry. Nous quitterons Venise demain matin à la première heure. » Et voici comment Lord Mountbury jugea le mystère de l'hôtel hanté. post-scriptum. Un dernier moyen de trancher la différence d'opinion qui existait entre les deux frères restait entre les mains de Henry. Il était décidé à se servir des fausses dents comme point de départ d'une enquête qu'il voulait faire dès que lui et ses compagnons seraient de retour en Angleterre. La seule personne encore vivante qui connût les moindres détails de l'histoire domestique de la famille dans les temps passés était la vieille nourrice d'Agnès Lockwood. Henry saisit la première occasion qui se présenta pour tenter de réveiller ses souvenirs sur Lord Mountbarry. Mais la nourrice n'avait jamais pardonné au chef de la famille son abandon d'Agnès. Elle refusa nettement de faire appel à sa mémoire. « La vue seule de Milord, quand je l'aperçus pour la dernière fois à Londres, dit la vieille femme, me donna des démangeaisons dans les mains. Mes ongles avaient une furieuse envie d'entrer leurs marques sur son visage. J'avais été envoyé en course par Miss Agnès, et je l'ai rencontré sortant de chez un dentiste. Dieu merci, c'est la dernière fois que je l'ai vu. » Grâce au caractère emporté de la nourrice et sa manière originale de s'exprimer, le but de Henry était déjà atteint. Il se risqua à demander si elle avait remarqué la maison. Elle ne l'avait pas oublié. Est-ce que M. Henry se figurait qu'elle avait perdu l'usage de ses sens parce qu'elle était âgée de 80 ans? Le même jour, il porta les fausses dents chez le dentiste, et dès lors, tous ses doutes, si le doute était encore possible, disparurent à tout jamais. Les dents avaient été faites pour le premier Lord Mountbarry. Henry ne révéla à personne l'existence de cette nouvelle preuve, pas même à son frère Stephen. Il emporta son terrible secret dans la tombe. Il y eut encore un autre fait sur lequel il conserva le même silence charitable. La petite Madame Ferraris ne sut jamais que son mari avait été, non pas comme elle le supposait, la victime de la comtesse, mais bien son complice. Elle croyait toujours que feu Lord Mountbarry lui avait envoyé la banknote de 1000 livres et reculait à l'idée de se servir d'un cadeau qu'elle continuait à déclarer souillé du sang de son mari. Agnès, avec l'entière approbation de la veuve, porta l'argent à l'hospice des enfants où il servit à augmenter le nombre des lits. Au printemps de la nouvelle année, il y eut un mariage dans la famille. À la demande d'Agnès, les membres de la famille seuls assistèrent à la cérémonie. Il n'y eut pas de déjeuner de noces, et la lune de miel se passa dans un petit cottage des bords de la Tamise. Dans les derniers jours qui précédèrent le départ du couple nouvellement uni, les enfants de Lady Mountbarry furent invités à venir jouer dans le jardin. L'aînée des filles entendit et rapporta à sa mère un petit dialogue relatif à l'hôtel hanté. « Henry, je voudrais vous embrasser. »« Embrasser, ma chérie. Maintenant que je suis votre femme, puis-je vous parler de quelque chose ?»« De quoi ?»« La veille de notre départ de Venise, il est arrivé un événement. Vous avez vu la comtesse pendant les dernières heures de sa vie. Dites-moi si elle vous a fait une confession. » Elle ne m'a fait aucune confession intelligible, Agnès, et par conséquent aucune confession qui vaille la peine qu'on vous attriste en la répétant. N'a-t-elle rien dit de ce qu'elle a vu ou entendu dans cette affreuse nuit qu'elle a passée dans ma chambre? Rien. Nous savons seulement que la terreur qu'elle y avait ressentie a hanté son esprit jusqu'à la fin. Agnès n'était pas entièrement satisfaite. Ce sujet la troublait. La courte conversation qu'elle avait eue avec sa misérable rivale d'autrefois lui suggérait des questions qui l'inquiétaient. Elle se souvenait de la prédiction de la comtesse. « Il vous reste encore à me conduire au jour où je serai découverte et où la punition qui m'attend viendra me frapper. » La prédiction s'était-elle trouvée fausse, comme toute prophétie humaine, ou s'était-elle réalisée dans cette horrible nuit où elle avait vu l'apparition et où elle avait attiré sans le vouloir la comtesse dans sa chambre à coucher? Quoi qu'il en soit, rendons ici hommage à la discrétion de Madame Henry Westwick. Jamais elle ne tenta une seconde fois d'arracher à son mari ses secrets. Les autres femmes, élevées suivant les préceptes et les habitudes modernes, en entendant parler d'une semblable conduite, eurent naturellement pour Agnès un dédain plein de compassion. À partir de ce moment, elle ne parlait d'elle que comme d'une personne des temps jadis, curieux spécimen des vertus des vieux âges. Est-ce tout? C'est tout. Alors il n'y a pas d'explication au mystère de l'hôtel hanté? Demandez-vous s'il y a une explication au mystère de la vie et de la mort. Ainsi s'achève L'hôtel hanté de Wilkie Collins.